La matinale, invité.
Jusqu'où un médecin doit aller pour maintenir en vie un patient? Quand faut-il décider d'interrompre le traitement d'un patient qui se trouve dans un état critique? Soins intensifs, comment éviter l'acharnement thérapeutique? C'est le titre d'une conférence. Elle a lieu demain soir dès 19h à l'auditoire de la chaîne sur le site de Neuchâtel.
Régula Tschirscher-Zenklüsen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef aux soins intensifs de l'hôpital Neuchâtelois, une des conférencières de demain soir. Merci d'être avec nous.
Alors, je vous en
prie. Aujourd'hui, la médecine peut continuer à faire fonctionner les organes pendant plus longtemps qu'autrefois. Est-ce que ça veut dire que les médecins sont de plus en plus amenés à décider qui vit, qui meurt, à quel moment, ou est-ce que c'est une fausse idée ?
Dans une certaine mesure, évidemment. Comme on a des moyens techniques pour effectivement maintenir des personnes en vie, des moyens qu'on n'avait pas il y a 20, 30, 40 ans, ou même certaines mesures qui n'existaient pas il y a quelques années, oui.
La frontière entre les soins et l'acharnement thérapeutique, elle est claire, elle est floue, c'est la même pour tout le monde ?
Pas du tout. C'est pas du tout la même pour tout le monde. Certes, c'est flou. Il n'y a effectivement pas juste un moment où on peut dire là commence l'acharnement thérapeutique. Comme vous avez posé la question, est-ce que c'est la même pour tout le monde ? Pas du tout, parce que un même traitement peut être parfaitement adéquat pour un patient et pas adéquat pour un autre, parce qu'il a d'autres maladies qui font que ce même traitement, il n'aura pas du tout le même effet.
Ça pose aussi la question de la frontière entre la vie et la mort. On parle de mort clinique. À quel moment on est vraiment considéré comme mort ou encore vivant ?
Il y a deux définitions de la mort. Il y a la mort comme tout le monde la connaît, quand le cœur s'arrête, que le patient ne respire plus. Et puis, la mort qui est beaucoup plus difficile à comprendre dans le cadre du don d'organes, où les fonctions du cerveau ont arrêté complètement. Mais parce que le patient, il est dans un milieu de soins intensifs, qu'il y a des machines qui le soutiennent, et le cœur, la respiration, ça continue grâce à ce support. Par contre, si le cerveau a éteint toutes ses fonctions, ça équivaut à une mort. Et puis là, il s'agira d'arrêter le support. Si on est dans le cadre d'un don d'organe, c'est un cadre spécial. S'il n'y a pas ce cadre-là, si là, on continue... Très clairement, c'est une des situations où très clairement, si là on insiste ou la famille insiste, ça c'est de l'acharnement thérapeutique.
Vous dites plus difficile à comprendre, à délivrer ce message aux proches, à la famille, c'est un des moments délicats de ce processus.
Oui, vous imaginez, vous voyez votre proche dans un lit, paisible, il a l'air de juste dormir, il est chaud, vous voyez sur le moniteur qui l'entoure, que là il y a une activité cardiaque. Et puis là, de faire confiance au médecin, de dire, mais il n'y a plus rien au niveau du cerveau, c'est pas évident. Donc ça demande une préparation aussi des proches.
Et comment on fait quand on est médecin? Est-ce que vous êtes formé pour délivrer ce message?
On est formé d'un côté par l'expérience. Il y a des cours qui sont délivrés. Et c'est vrai, là maintenant, les étudiants qui font les études de médecine sont... Je dirais, ou je crois, mieux préparé qu'on était nous. Il y a plus de cours dans ce sens-là aussi. Mais c'est vraiment aussi une question d'expérience.
La médecine de pointe, c'est par nature une discipline hautement technique. Est-ce qu'il y a un risque que les questions éthiques passent au second plan, ou il y a un équilibre qui se fait ?
Personnellement, je suis vraiment convaincu qu'il y a un équilibre qui se fait et que même on est aujourd'hui plus sensible à ces questions qu'on l'était peut-être dans les années 80 où vraiment toute cette technologie apparaissait.
La matinale. Invité.
Soins intensifs, comment éviter l'acharnement thérapeutique? C'est la conférence dont on parle avec notre invité, Régula Tschirscher, médecin-chef aux soins intensifs à l'hôpital Neuchâtelois. Alors, on a parlé, Régula Tschirscher, des réticences que peuvent ressentir les proches, mais est-ce que parfois c'est les médecins qui souhaitent maintenir en vie un patient alors que les proches voudraient de lui abréger ses souffrances? Est-ce qu'il y a dans le serment d'Hippocrate cette idée que du respect absolu de la vie humaine?
Évidemment, c'est notre tâche principale que le temps qu'il y a de l'espoir réel, que le patient il peut survivre et qu'on connaît ses volontés et qu'il a voulu se battre, c'est vraiment au centre de nos préoccupations. Vous imaginez bien que de comprendre l'enjeu de qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable, c'est des fois même pas facile, évident pour les médecins. Vous imaginez que pour les proches qui n'ont en général pas fait les études de médecine ou en tout cas ne sont pas spécialisés dans ce domaine, ça devient extrêmement important. Donc il y a beaucoup de gens qui, rien que le fait qu'un patient il soit branché à un respirateur, pensent que c'est de l'acharnement thérapeutique parce qu'ils n'ont aucun recul, aucune expérience et n'ont jamais vu un proche qui effectivement était peut-être dans un coma artificiel pour passer le cap d'une grosse pneumonie, mais qui après rentrait à la maison et était de nouveau bien. Donc, des fois, on doit vraiment évidemment argumenter et dire pourquoi ce ne serait pas correct d'interrompre les traitements. Mais en général, en discutant, en expliquant bien aux proches, on arrive à un consensus.
Chaque cas est différent. Quels sont les critères pour prendre ce genre de décision? L'âge du patient, par exemple?
Pas l'âge en soi. C'est vraiment le tableau global du patient. Est-ce que c'est qu'un organe qui est atteint et... on sait par expérience, nous, qu'il y a une grosse probabilité, une faible probabilité qu'il puisse passer le cap. Ou est-ce que, par exemple, une infection fait que finalement, il y a tous les organes qui sont atteints. Et puis, souvent, dans ces situations, on explique la gravité déjà de la situation et on le dit, écoutez, peu de chance ou beaucoup de chance qu'il pourra passer le cap. On vous propose... qu'on se donne tous les moyens pendant 24-48 heures, et puis soit là ça va vers le mieux et on est de l'avis de continuer, soit ça va encore pour le moins bien, et puis là, il faudra envisager le retrait thérapeutique.
Il y a de plus en plus conseillé maintenant de faire part de ses volontés avant de se retrouver dans une telle situation. Vous le constatez au quotidien, il y a quand même de plus en plus des patients où vous avez des consignes qui ont été laissées pour prendre ce genre de décision.
Il y a toujours peu de ces consignes, mais il y en a. Nous avons, si vous voulez, à l'intérieur de l'hôpital, nous faisons une sorte de directive anticipée avec plus ou moins chaque patient. On essaie justement de savoir jusqu'où il aimerait qu'on aille en cas d'aggravation.
Et des fois, il ne le sait pas lui-même.
Il ne le sait pas lui-même. Après, c'est
l'intérêt d'une telle conférence aussi.
C'est aussi une partie de la conférence, oui. Et puis, on voit des directives anticipées qui, malheureusement, ne nous sont pas utiles parce que pas adaptées au contexte précis.
Il faudrait les laisser comment, ces directives? Verbalement, par écrit, comment vous délivrez le message?
C'est mieux quand même d'avoir des directives écrites, mais les gens, des fois, n'aiment pas écrire ça. Donc, dans ce cas-là, on dit, mais au moins, exprimez votre volonté, si possible, vers le médecin traitant ou les proches, qui peuvent rapporter par la suite votre volonté. Mais le mieux, c'est si c'est écrit.
Ça reste un tabou malgré tout?
Je ne sais pas si c'est un tabou, je crois que c'est plutôt que les gens ne connaissent pas assez.
Et vous, pour vous-même, en tant que médecin, alors vous avez déjà pris vos décisions et vos directives anticipées?
La seule directive anticipée que je porte sur moi, c'est par rapport au don d'organes, où j'ai ma carte d'honneur. Et pour le reste, effectivement, pour le moment, ça est resté au stade oral, où j'ai laissé une, deux consignes à mon mari. C'est aussi difficile quand on est en bonne santé. Je peux vous dire, on ne peut pas faire directives anticipées raisonnables. Les directives anticipées qui sont les plus utiles, c'est quand on est atteint d'une maladie XY, dont on sait que ça peut évoluer comme ça, ou qu'on a déjà fait des expériences. Alors là, c'est beaucoup plus concret. Mais dans l'absolu, ça ne sert en tout cas à rien d'écrire des directives anticipées qui disent « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Parce qu'à nos jours, je dirais, tous nos médecins aux soins intensifs, c'est ce qu'on veut éviter, c'est de l'acharnement thérapeutique.
Soins intensifs, comment éviter l'acharnement thérapeutique? C'est donc le titre de cette conférence. C'est demain soir, 19h, à l'auditoire de la chaîne sur le site de Neuchâtel. Régulateur cher, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.